Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Alain Thomasset, vice-recteur des facultés Loyola Paris, en charge des relations internationales et enseignant également en théologie morale. Bienvenue à vous tous qui êtes présents dans cet auditorium Pierre Teilhard de Chardin et aussi à tous ceux qui sont en ligne et ils sont très nombreux, je sais. Donc bienvenue à tous pour venir participer avec nous à cet hommage au pape François. Et pour faire mémoire des gestes et des paroles qui ont marqué ce pontificat. Avec les membres des facultés Loyola Paris, et en collaboration avec la Croix, en partenariat avec eux, il nous a semblé bon de revenir sur quelques thèmes importants qui ont jalonné le ministère de François, et qui sans doute continueront de nous inspirer. Les chantiers ne sont pas terminés. Nous avons fait un petit livret qui est à votre disposition si vous le souhaitez à l'entrée, qui rappelle quelques brefs textes sur des thèmes importants. Et nous avons également publié il y a 2 ans un livre qui s'appelle « Les grands chantiers du pape François » qui était déjà un premier bilan des 10 ans de son pontificat et que vous pourrez vous procurer à l'accueil si vous le souhaitez ou en ligne, il peut être acheté. Ainsi qu'un autre ouvrage également. Les chantiers ne sont pas terminés, nous le savons, ce sont des processus à poursuivre. Et le pape François nous a habitués à être patients et à nous inviter à faire des processus et non pas des réponses trop rapides. Avant même que nos intervenants développent l'un ou l'autre aspect de sa pensée, rappelons brièvement quelques mots, quelques messages qui nous ont marqués, qui peuvent déjà nous retenir. Le pape François nous a invités avant tout à être témoins de la joie de l'Évangile, une joie pascale qui est la force des disciples missionnaires, une espérance qu'il s'agit de vivre au quotidien comme les apôtres après la résurrection du Christ. François est décédé un lundi de Pâques, n'est-ce pas un signe de plus de cette invitation, un geste significatif de plus? Il a placé la miséricorde de Dieu au centre de la révélation, comme le cœur battant de l'Évangile, le témoignage que l'Église doit rendre au monde et ce qui doit animer toute la pastorale de l'Église pour accueillir tout le monde, il répétait cela, dans la famille des enfants de Dieu. C'était aussi pour lui le désir et une manière d'être d'une Église pauvre, en vue d'accueillir les pauvres et rejoindre les pauvres. Il a appelé par ailleurs au dialogue dans tous les niveaux, entre les confessions, entre les religions, entre les savoirs, mais aussi entre les différentes sensibilités ecclésiales, dans une démarche synodale sous la conduite de l'Esprit, pour affronter ensemble les défis du temps. La sauvegarde de la maison commune, le drame des migrants, un système économique qui exclut, la guerre qui se répand, les exclusions et les pauvretés de toutes sortes. Il a rappelé aussi que nous sommes un peuple pèlerin, non pas déjà arrivé au terme, mais en marche vers le royaume, et que chacune de nos histoires est à la fois une histoire sacrée et fragile, marqué par les faiblesses, les résistances aussi, mais aussi toujours travaillé par la grâce. Dans nos défis présents, quand il s'agit d'allier la vérité à faire ou à découvrir et la miséricorde à exercer, il nous a invités à exercer la patience et l'écoute. L'écoute et la patience même de Dieu à notre égard. À mettre en œuvre des processus, des manières de faire inclusives. Enfin, en tout cela, il a appelé à faire appel aux ressources spirituelles de la foi, à entrer dans une mystique de l'action, à ne jamais séparer doctrine et pastorale, morale et spiritualité, à adopter le regard aimant de Jésus sur le monde pour accompagner chacun et discerner le travail de Dieu dans nos histoires, dans nos vies, ce travail de Dieu toujours à l'œuvre. Alors il n'est pas bien sûr question de reprendre tous les thèmes ce soir de ce pontificat, mais de proposer quelques regards sur les grands thèmes du pape François. Je laisse donc la parole à Isabelle de la Garandrie qui va animer cette soirée et je vous remercie à nouveau de votre présence. Merci.
Merci, bonsoir à tous. Notre soirée va se dérouler en différents temps. Nous écouterons d'abord trois interventions, puis il y aura un temps d'échange avec vous, mais aussi avec vous qui êtes en ligne. Vous pourrez poser vos questions dans le chat avant de passer à une relecture conclusive ou une ouverture, je ne sais pas bien, nous verrons. Et on va tout de suite passer à la première intervenante, à ma droite, Geneviève Comeau, qui est Xavier. Tu es théologienne et tu enseignes en particulier la théologie fondamentale dans cette maison. Tu es directrice adjointe du premier cycle et entre autres centres d'intérêt, tu étais spécialisée, parmi d'autres choses, dans le dialogue interreligieux. Et tu es intervenue lors de la journée d'études consacrée au chantier du pape François, justement. Alors, ton intervention de ce soir sera autour d'un mot qui nous est cher, justement, aux facultés Loyola, le style, qui est un mot qu'on voit d'ailleurs beaucoup fleurir dans les hommages. Donc, à toi la parole.
Bonsoir. François, un nouveau style. Alors, je pourrais évoquer un pape anticonformiste qui casse les codes, qui préfère loger à Sainte-Marthe et porter lui-même son petit bagage quand il voyage. Mais non, je vais prendre le mot style dans un sens plus théologique. J'emprunte ce mot de style à l'historien jésuite américain John O'Malley. Quand on l'interroge sur ce qu'il y a eu de neuf à Vatican II, O'Malley répond « c'est le style ». C'est la tonalité, la manière de faire qui est nouvelle. Et dans un sens, ça change tout. Vatican II a eu un style pastoral, car le pape Jean XXIII désirait que tous les humains puissent entendre et recevoir l'Évangile. Eh bien, le style du pape François a eu la même tonalité. Une approche pastorale, faite de miséricorde, de proximité, de convivialité. Mettre l'accent sur l'essentiel. Il n'est pas nécessaire de parler en permanence des questions liées à l'avortement, au mariage homosexuel, etc. Parce que c'est le cœur de l'Évangile qu'il faut annoncer. L'invitation à répondre au Dieu qui nous aime et qui nous sauve. Sans cela, le message courra le risque de ne plus avoir le parfum de l'Évangile, écrivait-il dans « La joie de l'Évangile », un de ses premiers textes. Donc la nouveauté du pape François tenait plus à son style, à sa manière d'entrer en relation, qu'à un changement dans la doctrine elle-même. En fait, il avait, avec Jean XXIII, le pape qui a lancé le concile, une vraie parenté spirituelle, que je décrirai ainsi, la confiance en l'Esprit-Saint, la préférence donnée à la miséricorde plutôt qu'au jugement, et le souci du destinataire, donc le recours à un style pastoral, pour que puisse être reçu ce que l'Église annonce. Ces trois caractéristiques étaient propres à Jean XXIII, comme elles l'étaient au pape François. Le pape François a eu le souci du style de l'Église, qu'elle soit la maison ouverte du Père, qu'elle aille vers les périphéries humaines. Un aspect très important de la joie de l'Évangile et du pontificat de François, c'est que la dimension sociale ne s'ajoute pas à l'Évangile comme un complément ou une conséquence, mais lui est relié de l'intérieur et en fait intrinsèquement partie. François nous a prévenu, le kérygme possède un contenu inévitablement social. Au cœur même de l'Évangile, il y a la vie communautaire et l'engagement avec les autres. D'où la place capitale donnée au peuple et à l'intérieur du peuple, aux pauvres. L'engagement pour et avec les pauvres n'est pas simplement une conséquence de la foi chrétienne, c'est la chair même de la foi. Et cela dessine un style de vie pour l'Église, pour chaque chrétien. À partir de là, je vais suivre plusieurs fils conducteurs, 5, caractéristiques du style de François tout au long du pontificat. Le premier, la proximité avec les gens, avec ce qu'il appelle le peuple, l'intérêt pour ce qui s'élabore à la base plutôt qu'au sommet. François a valorisé la piété populaire car il y a trouvé une créativité qui n'est pas dictée d'en haut. Il se méfiait un peu des constructions théoriques. Au contraire, il a mis en valeur que la réalité est plus importante que l'idée. Il partait de la réalité concrète de ce que vivent les gens, et il n'était pas homme à appliquer de façon inflexible de grands principes. Or, la réalité concrète est toujours complexe, plurielle. François a valorisé cette pluralité. À l'intérieur de l'Église, où les diverses communautés chrétiennes n'ont pas à imiter la manière européenne de vivre la foi, et dans Laudato aussi, il regrettait que le règne de la technologie tende à homogénéiser les cultures et à affaiblir l'immense variété culturelle qui est un trésor de l'humanité, disait-il. Son intérêt pour le peuple et pour la pluralité l'a conduit à critiquer le cléricalisme, à donner des responsabilités aux femmes dans les structures de la curie et à valoriser la synodalité. On en reparlera tout à l'heure. Deuxième fil conducteur, pas de jugement tout fait, je disais, mais une manière de procéder enracinée dans le discernement, en s'adaptant aux difficultés et aux questions des gens. Discerner l'esprit à l'œuvre dans l'infinie variété des situations. Encourager, accueillir, accompagner, discerner. Ce sont les attitudes que François a promues dans l'exhortation à Maurice Laetitia, à la suite du synode sur la famille. L'enracinement ignatien du pape jésuite lui a permis de proposer un tel chemin de discernement, où il a rappelé que tout le monde est en chemin et tout le monde a besoin de la miséricorde de Dieu. Là aussi, nous y reviendrons dans la soirée. Sensible à la diversité et à la complexité des situations, François a une conscience vive de la fragilité de notre maison commune avec le souci des plus pauvres. C'est le troisième fil conducteur. On le trouve dans plusieurs interventions du pape et bien sûr dans l'encyclique Laudato Si de 2015, il y a tout juste 10 ans. Ne voyons pas la fragilité de manière seulement négative. Elle est l'occasion de réaliser que nous avons besoin les uns des autres et donc de vivre l'interdépendance. De fait, François nous a invités à passer de l'indépendance à l'interdépendance. Avec cette expression qui revenait souvent chez lui, tout est lié. Notre rapport à la nature et aux autres, le cri des pauvres et le cri de la planète, tout est lié et tout est fragile aussi. Invitation à prendre soin. Quitter le monde moderne du progrès matériel sans limite pour aller vers un mode de vie plus sobre, plus respectueux. Laudato si contient une forte critique de la culture du déchet. Des millions de tonnes de déchets sont produits chaque année, dont la plus grande partie n'est ni triée ni recyclée et entraîne beaucoup de pollution. Dans Fratelli Tutti, l'encyclique sur la fraternité et l'amitié sociale, François a utilisé « culture du déchet » de façon métaphorique. Il a critiqué une culture où certaines personnes sont considérées comme inutiles, quasiment à mettre à la poubelle. Et il invite au contraire à prendre soin des plus fragiles. Par exemple, les migrants, ceux qui ont quitté leur pays et qui dépendent de l'accueil qu'ils vont trouver ou pas trouver. Lui-même était fils et petit-fils de migrants. Son premier voyage comme pape a été pour l'île de Lampedusa, nous nous en souvenons. Et dans le chapitre 2 de Fratelli Tutti, chapitre intitulé « Un étranger sur le chemin » et consacré à la parabole du bon samaritain, il nous invite à une proximité sans frontières. Laudato si et Fratelli Tutti sont en fait deux encycliques jumelles et j'aborde ici mon quatrième fil conducteur. Nous habitons une maison commune, mais nous faisons aussi partie d'une commune humanité. Tout cela devrait entraîner des changements dans notre style de vie. Si Laudato si concerne le rapport à toute la création, Fratelli Tutti s'intéresse au rapport entre humains. C'est le même appel à ne pas vivre en étant centré sur soi et ses intérêts, mais à vivre en relation et même en communion avec les autres êtres vivants et les autres humains. François nous a invités à vivre un style de vie selon l'Évangile, un style de vie basé sur la rencontre de l'autre, quel qu'il soit, même si a priori je pourrais penser que telle personne n'est pas intéressante. Donc un style de vie qui implique une certaine gratuité dans les relations. Enfin, le cinquième et dernier point, pour caractériser le style du pape François, c'est l'amitié. L'amitié. Il évoquait souvent son amitié avec tel ou tel, au-delà des frontières de l'Église catholique, avec le rabbin Abraham Skorka, en Argentine, avec le patriarche Bartholomé, avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb, qui a envoyé un message de condoléances au Vatican. Ce style de vie fondé sur l'amitié exclut toute position de surplomb ou de supériorité. François témoignait tranquillement de sa foi chrétienne, mais ne demandait à personne de devenir chrétien et ne disait pas que les choses iraient mieux si tout le monde devenait chrétien. Ainsi, dans Fratelli Tutti, il a proposé à toute l'humanité une nouvelle culture de la rencontre, de la relation, qui met au centre les plus fragiles. Ce projet était inspiré par la foi chrétienne, mais peut rejoindre les aspirations de tous les humains. Et pour conclure, une amitié, une relation était au cœur de sa vie, celle avec le Seigneur Jésus. Cette relation était source de joie. François nous a invités à entrer dans la joie, à ne pas nous laisser voler la joie. Ne l'oublions pas.
Merci beaucoup Geneviève de ce beau panorama qui termine par une invitation à la joie, qui prend sa source à l'Évangile et puis qui montre aussi toute l'importance et la donnée par le pape François à l'humanité dans toute sa beauté et sa richesse. Et ça nous amène assez naturellement, somme toute, à notre deuxième intervention. Grégoire Cata, tu es jésuite. Tu enseignes ici la théologie morale au sein du département d'éthique philosophique et de théologie morale. Tu as été directeur du service national famille et société à la conférence des évêques de France, ce qui te donne aussi une attention toute particulière à ces questions-là. Et vu que tu es spécialisé en particulier dans la doctrine sociale de l'Église, ça, c'est tout naturellement le thème de ton intervention à travers les textes majeurs du pape François à ce sujet, la dimension sociale et écologique de l'évangélisation.
Merci pour cette introduction et bonsoir à chacune et chacun. La dimension sociale et écologique de l'évangélisation, c'est sûr que le pape François est un pape inspirant pour un théologien comme moi qui se centre sur la pensée sociale de l'Église parce que il a particulièrement mis en valeur cette pensée sociale de l'Église et il l'a enrichie. Comme on l'a déjà un peu évoqué, il faut commencer par rappeler à quel point pour le pape François, cette pensée sociale de l'Église, la dimension sociale de l'évangélisation est une dimension incontournable. Dans Evangelii Gaudium, dans la joie de l'Évangile, la première exhortation qu'il a publiée quelques mois après avoir été élu pape, il rappelle dans le quatrième chapitre, il donne une définition de l'évangélisation. Évangéliser, c'est rendre présent dans le monde le royaume de Dieu. Rendre présent dans le monde le royaume de Dieu. Et du coup, il ajoute, je voudrais partager à présent mes préoccupations au sujet de la dimension sociale de l'évangélisation. Précisément parce que si cette dimension n'est pas dûment explicitée, on court toujours le risque de défigurer la signification authentique et intégrale de la mission évangélisatrice. Voilà. Si on développe pas cette partie-là, ben on court le risque de défigurer l'évangélisation. Alors c'est vrai que c'est pas le premier pape à dire des choses sur ce rôle central de la dimension sociale de l'évangélisation ou de la pensée sociale. Pape Jean-Paul II, dans Santissimus Annus en 1991, disait déjà que l'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale appartiennent à sa mission d'évangélisation. L'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale de l'Église appartiennent à la mission d'évangélisation de cette Église. C'est une partie essentielle du message chrétien. Essentiel au sens que c'est pas périphérique, c'est essentiel, et au sens scolastique du terme. Mais on peut dire que le pape François a mis en œuvre cela et l'a déployé de manière très très forte. Alors pourquoi? Parce qu'il l'explique aussi un peu plus loin, quelques paragraphes plus loin, dans la joie de l'Évangile. Parce que la proposition de l'Évangile ne consiste pas seulement en une relation personnelle avec Dieu. Notre réponse d'amour ne devrait pas s'entendre non plus comme une simple somme de petits gestes personnels en faveur de quelque individu dans le besoin. Il s'agit d'aimer Dieu. La proposition est le royaume de Dieu. Il s'agit d'aimer Dieu qui règne dans le monde. Dans la mesure où Dieu réussira à régner parmi nous, la vie sociale sera un espace de fraternité, de justice, de paix, de dignité pour tous. Donc aussi bien l'annonce que l'expérience chrétienne tendent à provoquer des conséquences sociales. Alors, de fait, le pape l'a montré, François l'a montré, parce que il a quand même produit deux encycliques sociales majeures que nous avons déjà évoquées, Laudato si, auquel il faudrait associer aussi l'exhortation apostolique post-synodale Querida Amazonia, qui est comme une prolongation aussi de Laudato si, et puis Laudate Deum, une plus petite exhortation, mais qui, il y a en 2023, nous avait secoué de nouveau sur la nécessité de prendre soin de notre maison commune. Il y a aussi tous les gestes que le pape a posés. Mais je dirais, ce qui est aussi tout à fait marquant dans la manière de faire et qui est un enrichissement pour la pensée sociale de l'Église, c'est que dans tous ses écrits, dans toutes ses interventions, François était fidèle à honorer cette dimension sociale de l'évangélisation. Donc c'était pas simplement quelque chose pour le moment où je parle, je fais des encycliques sociales, c'était vraiment dans toute l'expression, dans tout son désir d'exprimer le message de l'Évangile. Je prends deux exemples simplement dans l'exhortation à Maurice Laetitia, qui traite donc de la famille. Il aborde la question de la famille, mais aussi dans sa dimension sociale. Il y a tout le deuxième chapitre qui est consacré à la réalité et les défis de la famille aujourd'hui. Et on y voit bien que la famille est une question pas simplement des relations à l'intérieur de la famille, mais des interactions entre la famille et la société. Pour le bien ou pour des difficultés aussi, quoi. Voilà. Autre exemple, dans sa dernière encyclique, Dilexit Nos, sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, c'est pareil, on pourrait se dire, c'est une encyclique qui est d'abord de nature spirituelle, pour nous encourager dans la prière, nous donner des éléments, mais en fait, au cœur de cette encyclique, on va trouver aussi la dimension sociale. Il a toute une section sur le sens social de la réparation au cœur du Christ. Il faut quand même le rappeler, et ça peut paraître un peu original, mais en fait, quand on le lit, c'est tout à fait beau et inspirant. Au moins deux grandes marques, en tout cas c'est les deux marques que moi je retiens, pour le déploiement de la pensée sociale de l'Église par François. La première, c'est l'enrichissement du principe, déjà au cœur de la pensée sociale de l'Église, le principe de l'option préférentielle pour les pauvres. Et puis la deuxième marque importante, c'est la thématique de la fraternité, une thématique large mais qui d'une certaine manière rassemble beaucoup de ce que le pape François a dit, ou ce à quoi il a appelé. L'option préférentielle pour les pauvres, on sait, on se souvient que deux jours ou trois jours après son élection, quand il s'adresse aux journalistes et aux médias présents au Vatican pour cet événement, il leur dit « Ah, comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres ». Et ça a vraiment marqué son pontificat. Ce qui est intéressant à noter et important, c'est l'enrichissement de la question de l'option pour les pauvres. Il s'agit pas simplement d'une option en termes éthiques, une attention particulière à avoir aux plus petits, aux pauvres, aux exclus, aux marginaux. Ça, de fait, ça continue à être très fort et c'est quelque chose qui structure, je dirais, un certain nombre d'enseignements de la pensée sociale de l'Église. Mais ce qu'a vient renforcer, rajouter le pape François, c'est cette attention à faire de ces petits, de ces pauvres, de ces exclus, des protagonistes, des gens qui contribuent, quoi. Non seulement, il s'agit bien de reconnaître, comme il le dit dans Fratelli Tutti, le torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Numéro 169 de Fratelli Tutti. Le torrent d'énergie morale qui naît de la participation des exclus à la construction d'un avenir commun. Et puis, dans Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, dès 2013, le pape François insistait que les pauvres ont beaucoup à nous enseigner. C'est dans le même paragraphe, il rappelait l'enseignement de ses prédécesseurs, le fait que le pape Jean-Paul II avait inscrit dans l'enseignement magistériel de l'Église l'option préférentielle pour les pauvres, qu'il appelait l'amour de préférence pour les pauvres, une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne. dont témoigne toute la tradition de l'Église. Le pape Benoît XVI avait rappelé l'enracinement christologique de cette option. Une option, disait Benoît XVI au discours d'ouverture de l'Assemblée des évêques latino-américains d'Aparecida, cette option est implicite dans la foi christologique en ce Dieu qui s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Allusion à la deuxième lettre aux Corinthiens. Mais ce que ajoute le pape François, de fait, dans ce numéro 198, et qu'il a déployé énormément en nous montrant à la fois des gestes et puis dans ses propos, ils ont beaucoup à nous enseigner. Il est nécessaire que tous nous laissions évangéliser par eux. Nous devons les écouter, essayer de les comprendre et accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Et puis, l'autre lieu où évidemment se déploie, s'étend l'option préférentielle pour les pauvres, c'est cette extension de l'option préférentielle pour les pauvres, on pourrait dire, en tout cas cette inclusion dans l'option préférentielle pour les pauvres, de ce que le pape appelle parmi les plus pauvres et les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée. C'est le numéro 2 de Laudato Si. Sœur, notre mère, la terre, comme l'appelle saint François dans le Cantique des créatures. Et c'est vrai que cette extension, cette manière d'aborder, on pourrait dire, la question de la crise écologique, mais par cette entrée aussi de dire, il y a là une pauvreté, il y a là aussi une pauvreté dont il faut s'occuper. La notion d'écologie intégrale qui est déployée dans Laudato Si, évidemment s'inscrit dans la ligne du développement humain intégral que Paul VI avait présenté dans l'encyclique Populorum Progressio en 1967. Mais, d'une certaine manière, le pape fait plus que simplement étendre cette notion. On peut dire aussi que la manière dont il introduit la notion d'écologie intégrale nous oblige à revisiter finalement tous les grands pans de l'enseignement social de l'Église en prenant en compte cette écoute à la fois du cri des pauvres et du cri de la terre. On peut aussi rappeler que de ce point de vue-là, quand le pape va inviter à une conversion écologique, il parle aussi d'une révolution culturelle, mais une conversion écologique, il souligne à quel point pour les croyants il s'agit de faire jaillir les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure. Donc un ancrage de nouveau christologique. Déploiement du principe de l'option préférentielle pour les pauvres, ça c'est certainement une marque importante. La deuxième marque importante, je retiendrai, c'est la fraternité. Le thème de la fraternité a particulièrement marqué le pontificat du pape François. Il en a fait le thème central de sa deuxième grande encyclique sociale, Fratelli Tutti, tous frères et sœurs, publiée en 2020, alors qu'on pensait être peut-être un peu sorti du Covid, mais en fait on y était encore en plein dedans. Cette encyclique qui a repris beaucoup de discours, d'homélies, de messages prononcés en des circonstances diverses, mais en les rassemblant sous cette encyclique unifiée autour d'un vibrant appel à la fraternité, une fraternité qui soit universelle. C'est ça le grand thème du pape François, c'est pas toutes les dimensions de la fraternité, mais une fraternité qui est universelle, c'est-à-dire qui ne se limite pas à celles et ceux qui sont proches par les liens du sang ou de l'appartenance ethnique ou de l'appartenance nationale. Comme il dit au numéro 1 de Fratelli Tutti, une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Alors c'est sûr que l'appel à vivre authentiquement les liens qui constituent la famille humaine et à œuvrer pour l'organisation et des structures des sociétés qui soient, ou même des relations internationales, qui soit dans cette dynamique-là, c'est pas un enseignement nouveau dans la doctrine sociale de l'Église. Mais François lui a donné, on peut se rappeler du Concile Vatican II déjà, et puis encore de nouveau de Paul VI dans Populorum Progressio. Il est aussi question de la fraternité de la famille humaine. Mais il faut reconnaître que le pape François lui a donné une nouvelle vigueur et de nouveaux accents. Alors je vais en souligner 4 et puis juste rappeler un petit cinquième. D'abord, il nous donne dans Fratelli Tutti la parabole du bon samaritain comme inspiration et modèle. Alors, il le déploie beaucoup dans Fratelli Tutti, mais après, on va retrouver cette parabole du bon samaritain dans d'autres textes, que ça soit sur l'intelligence artificielle, que ça soit voilà des allusions, les questions de bioéthique, les textes Samaritanus Bonus produits par le dicaster de la doctrine de la foi reprend aussi cette parabole. Pourquoi ? Parce que la parabole du bon samaritain offre vraiment une inspiration et un modèle pour déployer la fraternité dans toutes les dimensions de la vie sociale. Il s'agit de sortir de la culture de l'indifférence qui fait détourner la tête et passer son chemin devant le blessé et au contraire d'adopter l'attitude du samaritain qui s'arrête. Celui qui se laisse saisir de compassion et qui du coup prend soin de celui ou celle qui est dans le besoin. Et le pape François va dire, c'est un texte qui nous invite à raviver notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs d'un nouveau lien social. C'est un appel toujours nouveau que la société poursuive la promotion du bien commun. Deuxième point, dans cet appel à la fraternité, il y a évidemment au cœur, ou en tout cas comme une voie indispensable, le dialogue et la culture de la rencontre. Ce sont vraiment des voies indispensables pour la fraternité. François a constamment appelé à ce dialogue qui est d'abord écoute et souci de connaître l'autre et de le comprendre pour ensuite chercher à avancer ensemble vers la vérité du respect de la dignité humaine et la vérité de la recherche du bien commun. Le dialogue est le chemin, bien entendu, pour mettre en œuvre une écologie intégrale, mais aussi pour mettre en œuvre une économie au service de l'humanité, pour la résolution des guerres et des conflits, pour la construction de la paix. Et François en donne un vibrant témoignage de cette culture de la rencontre et de ce dialogue lorsqu'il signe en 2019, on l'a aussi un peu évoqué, avec le grand imam Al-Tayeb, le document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune. C'est comme ça que tous les deux, Al-Tayeb et François, vont affirmer qu'au nom de Dieu qui a créé les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères, les deux autorités religieuses vont déclarer « Nous voulons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. » Troisième point sur la fraternité, pour le pape François, la voie d'une véritable fraternité universelle n'est pas que simple déploiement de vertus personnelles. C'est un véritable programme de transformation structurelle, on pourrait dire, une inspiration pour une meilleure politique. Une meilleure politique mise au service du vrai bien commun. Elle est nécessaire pour permettre le développement d'une communauté mondiale capable de réaliser la fraternité à partir des peuples et des nations qui vivent l'amitié sociale. C'est Fratelli Tutti. Et du coup, dans cette ligne, le pape François n'a eu de cesse de dénoncer à la fois les populismes étroits qui prétendent défendre le peuple en faisant une entité fermée et repliée sur elle-même, un « nous » opposé à des « eux ». Et en même temps, il a aussi dénoncé les visions libérales individualistes où la société est considérée comme une simple somme d'intérêts qui coexistent. Quatrième point sur la fraternité, on peut rappeler qu'une pierre de touche vraiment pour cet engagement pour vivre la fraternité à l'échelle de la famille humaine universelle, c'est bien le traitement réservé aux migrants. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer, ce sont les quatre verbes répétés inlassablement par François pour ouvrir un chemin devant le défi complexe posé par l'accroissement des migrations internationales, autant que des migrations internes, avec leur cortège de situations tragiques. On se souvient des gestes forts, Lampedusa, on l'a évoqué, Lesbos, où il repart au Vatican avec quelques familles de migrants qui seront accueillis au Vatican. Une telle fraternité prend en compte les difficultés et les défis de l'intégration, avec les forces et les limites des communautés accueillantes. Mais le moteur de la fraternité permet de garder les peuples à la fois solidement enracinée localement et dans une ouverture à l'universel et à la richesse de la rencontre de l'autre différent de soi. Le chapitre sur les migrants dans Fratelli Tutti développe beaucoup cet aspect-là, d'être à la fois ancré localement et ouvert à l'universel. Pas simplement dans l'universel et pas simplement enfermé localement. Alors c'est pour ça qu'il va rappeler qu'il est contraire à la foi chrétienne de défendre diverses formes de nationalisme fondées sur le repli sur soi, des nationalismes violents, des attitudes xénophobes, défendre le mépris, voire les mauvais traitements à l'égard de ceux qui sont différents. C'est contraire à la foi chrétienne de défendre cela, même s'il constate que quelques-uns le font. Le cinquième point, mais j'y reviens pas trop longuement, c'est de rappeler que la fraternité universelle s'étend à l'ensemble de la création. Dans Laudato si, il va parler de cette famille universelle et cette communion sublime avec toute la création. Pour conclure, je dirais que l'inspiration de François pour la pensée sociale de l'Église, elle est aussi bien signifiée par cette mise en avant du saint patron qu'il s'est choisi, quoi, en étant nommé pape François. La figure de saint François d'Assise est vraiment une inspiration pour toute la pensée sociale. Je termine avec cette citation de Laudato si. En saint François d'Assise, on voit jusqu'à quel point sont inséparables la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix intérieure. Pape François, inspirateur pour des théologiens comme moi, mais aussi pour tous les pratiquants de la pensée sociale de l'Église.
Merci beaucoup Grégoire Cata de cette lecture sociale et écologique des textes et des gestes du pape François, notamment avec l'option préférentielle pour les pauvres et la fraternité. Ça nous ouvre à l'altérité et puis, puisque tout est lié, je me tourne vers notre dernier intervenant, François Audinet. Tu es prêtre du diocèse du Havre, enseignant en théologie pratique et dogmatique, aumônier du Secours catholique, ne l'oublions pas. Et tu as été expert facilitateur du dernier synode sur la synodalité. Et tu étais aussi auparavant parmi les rapporteurs de la phase nationale du synode, ce qui amène assez naturellement à ton intervention sur la synodalisation de l'Église et de la théologie. Merci.
Bonsoir à tous et à toutes. Je crois qu'il est facile de repérer que la synodalité est un accent déterminant du pontificat de François, un accent présent dès la joie de l'Évangile, l'exhortation qui dessinait le programme de son pontificat. Cet accent, François l'a manifesté déjà par des actes en convoquant différents synodes dont on peut dire qu'ils auront marqué son pontificat. Le synode sur la famille, le synode pour l'Amazonie et le synode qu'on a appelé sur la synodalité qui en fait s'appelait pour une église synodale. Au fond, dans ce pontificat, la synodalité n'aura pas d'abord été une théorie, même si le dernier synode s'est efforcé de cheminer vers une compréhension partagée de ce que c'est que la synodalité. Mais dans les mots du pape François, la synodalité était surtout un concept opératoire, pragmatique. Quand il rappelait que l'Église était constitutivement synodale, en réalité, il l'appelait à être davantage synodale. C'est dans ce cadre opératoire, pragmatique, qu'il faut comprendre la définition très personnelle que François en a donnée. Selon lui, l'étymologie de la synodalité, c'est « marcher ensemble ». Mais, si j'en crois les travaux d'Arnaud Join-Lambert, la synodalité renvoie plutôt étymologiquement au fait de « passer ensemble un seuil » et donc de tenir une assemblée. L'étymologie selon le pape François est donc incertaine. Mais en fait, elle correspond exactement à son programme. Marcher ensemble. Dès lors, on peut recevoir la définition qu'en donne le pape François, bien sûr,
en l'enrichissant, me semble-t-il, d'une double précision qui correspond, je crois, à ce qu'il a essayé de faire. La première précision, c'est que cette marche commune se fait au moyen d'assemblées ecclésiales où on discerne ensemble. D'assemblées ecclésiales où on discerne ensemble. La seconde précision, c'est que cette marche ensemble ne concerne pas seulement des individus, des baptisés pris séparément. Cette marche ensemble concerne également les églises locales, voire, pourquoi pas, la totalité des églises chrétiennes. Selon moi, un moyen de rendre compte de la place opératoire, pragmatique, que tient la synodalité dans l'enseignement de François, c'est d'utiliser le terme, un peu barbare, de synodalisation, qui a été proposé par le théologien Raphaël Luffiani. En d'autres termes, François a travaillé à une synodalisation de l'Église catholique, qui bien sûr est toujours en chemin. Il me semble qu'on peut repérer quatre dimensions majeures de cette synodalisation voulue par le pape François. Il n'y en aura pas une cinquième. Je les nomme brièvement les quatre et puis j'y reviendrai ensuite. C'est d'abord l'insistance sur le sensus fidei, le sens de la foi. Ensuite, c'est l'attention portée à la participation des pauvres et des voix marginales. Puis, logiquement, une réappréciation de ce que signifie l'unité ecclésiale, ce que c'est que l'unité. Et enfin, un essai de synodalisation du travail théologique lui-même, du travail théologique. Je commence par l'insistance sur le sensus fidei des fidèles. Comme souvent, lorsqu'il se produit dans l'Église catholique un renouveau théologique, François a réemployé une notion très ancienne, attestée dès l'Antiquité, celle du sensus fidei. Il s'agit d'une intuition, ou même d'un flair, comme l'a dit François. Une compréhension intuitive de ce qui est cohérent avec la foi ou de ce qui s'y oppose. Cette notion a été mentionnée par le Concile Vatican II, mais elle demeurait assez marginale dans l'enseignement conciliaire. François, lui, a conféré au sensus fidei une place de pivot dans la synodalisation de l'Église catholique. En premier lieu, le sensus fidei, c'est ce qui permet de fonder une synodalité qui implique tout le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu. Tous les baptisés sont légitimes. Et même, tous les baptisés sont appelés à prendre part au discernement ecclésiaux à cause du travail de l'Esprit-Saint en eux. De façon cohérente avec l'enseignement du Concile Vatican II, dans Dei Verbum, de façon cohérente avec cet enseignement, mais en faisant un pas supplémentaire, l'autorité des évêques et du pape s'en trouve réinterprétée. Ce que François a fait explicitement. L'autorité des évêques et du pape s'inscrit au sein du discernement réalisé par tout le peuple de Dieu, et non pas au-dessus de ce discernement. Il revient alors, comme le disait déjà le Concile, il revient aux évêques et au pape d'authentifier ce discernement. Cette conception du sensus fidei, c'est la conséquence d'une veine de Lumen Gentium, un texte essentiel du Concile, que là aussi François a repéré et particulièrement développé. C'est la dimension pneumatologique de l'ecclésiologie, c'est-à-dire la place que tient l'Esprit-Saint dans la théologie de l'Église. L'Église ne peut pas être définie seulement comme le peuple de Dieu qui poursuit la mission du Christ. La mission du Christ. Bien sûr, elle doit être définie comme ça. Mais elle doit aussi être comprise à partir du travail de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint qui inspire notamment le sensus fidei. C'est pourquoi cette théologie du sensus fidei, avec sa dimension pneumatologique, en fait c'est la condition nécessaire pour les trois points que je vais évoquer ensuite. L'écoute de la voix des pauvres, la confiance dans le travail que l'Évangile accomplit dans chaque culture, et puis une théologie académique appelée à se mettre davantage à l'écoute du peuple de Dieu. J'en viens donc au deuxième point. C'est indéniable que un des accents propres à François quand il parle de synodalité, c'est son insistance sur l'écoute des pauvres, qui a été reprise par le document final du récent synode. Ce document a même identifié l'Église synodale comme une prophétie sociale. Une prophétie sociale, mais pas sans condition. Une prophétie sociale dans la mesure où l'Église synodale prend le contre-pied d'un monde qui sans cesse crée des périphéries, marquées par la marginalisation, par l'oppression ou par la violence. Je note au passage qu'il s'agit d'une originalité œcuménique, puisque si la synodalité a beaucoup de sens pour nombre d'églises chrétiennes, je crois que la manière dont François la conçoit à partir des pauvres relève d'une originalité indéniable. À cet égard, la synodalisation réalise une forme de rêve ecclésiologique. Le rêve est un terme que François a souvent utilisé et qui a une véritable portée théologique. Parce que le rêve, ça réhabilite le travail de l'imagination en ecclésiologie. Or, ce travail de l'imagination, il est nécessaire si on reconnaît que la sainteté de l'Église relève de l'eschatologie, c'est-à-dire d'un don ultime que nous ne recevons pas encore complètement. Je reformule. Rêver d'une Église où tous ont leur voix, en fait, c'est contester l'état actuel de l'Église catholique au nom de la sainteté de Dieu. Si vraiment nous essayons d'accueillir et de refléter et de vivre de la sainteté de Dieu, alors elle conteste un peu l'état présent de notre Église. Il y a donc une dimension de rêve, d'imagination ecclésiologique. C'est pourquoi la sainteté de Dieu, elle nous appelle à faire preuve d'imagination, à rêver, pour que l'Église plus synodale traduise mieux la sainteté divine. C'est précisément à cet endroit-là que l'attention aux pauvres et aux exclus stimule notre imagination. Parce que une Église qui veut traduire la sainteté de Dieu et accueillir la sainteté de Dieu, elle a besoin d'entendre les voix, les soifs, les intuitions, les expériences des plus pauvres. Leur écoute, l'attention aux voix marginales, eh bien ça ouvre notre imaginaire. Ça ouvre notre imaginaire à la sainteté de Dieu dont ces personnes et ces groupes ont une expérience toute particulière. J'en viens à un troisième aspect de la synodalisation. Depuis au moins le XIXe siècle, l'Église catholique s'est habituée à beaucoup miser sur l'uniformité, permise par le droit canonique, permise par l'enseignement pontifical, et aussi par la figure de plus en plus identifiable, le visage de plus en plus visible du pontife romain. Or, le document final du dernier synode parle de l'Église catholique comme d'une église d'église. Une église d'église. Ce terme qui vient de l'ecclésiologie de communion suppose que chaque église locale a vraiment une consistance. C'est vraiment l'Église du Christ qui est présente en ce lieu. De plus, chez François, l'expression est influencée par la théologie latino-américaine de la culture et de l'inculturation. Je voudrais approfondir ça. Parce que le récent synode a compris le rapport des églises locales entre elles comme un échange de dons. Un échange de dons. Chaque église locale entend l'unique évangile d'une manière spécifique. En telle culture, on entend l'évangile d'une certaine manière. En telle autre culture, on entend le même évangile avec des accents évidemment similaires, mais aussi des accents en partie différents. Alors chaque église locale est appelée à partager cet écho de l'évangile avec les autres églises locales dans une communion dont l'évêque de Rome est le garant. C'était pour favoriser ce processus-là que le synode pour une église synodale a alterné des phases locales à différentes échelles et des phases romaines. Ça suppose de faire confiance à la diversité des cultures humaines, à leur capacité d'entrer en résonance avec l'Évangile. Cette résonance, elle produit des échos nouveaux de l'Évangile, qu'il est bon d'entendre, qu'il est bon pour les autres églises locales d'entendre. La métaphore musicale a d'ailleurs été utilisé pendant le synode, en décrivant l'unité de l'Église catholique non pas comme une uniformité, mais comme une harmonie. C'est donc l'air de rien, la catholicité de l'Église, qui a été remise en chantier. Et puis enfin, quatrième et dernier point, dans divers textes, François a considéré que le travail théologique lui-même, le travail de la théologie académique, devait se configurer de façon synodale. François a déployé cette synodalisation de la théologie dans plusieurs directions, alors je tente de la résumer par deux aspects. Le premier, c'est l'élaboration d'une théologie contextuelle. En d'autres termes, une théologie attentive à l'Église dans laquelle elle est élaborée, attentive à la société dans laquelle elle est élaborée, attentive à la culture dans laquelle elle est élaborée. Le second aspect, c'est l'invitation faite aux théologiens et théologiennes à l'interdisciplinarité, voire la transdisciplinarité. Ça signifie que il est bon pour la théologie d'être nourrie et aussi questionnée par d'autres domaines du savoir et de la réflexion. Et ça, évidemment, cette interdisciplinarité ou transdisciplinarité, ça concourt aussi à la contextualisation du travail théologique, parce que ça suppose l'intérêt pour la culture et pour ce qu'il y a comme conversation dans telle culture entre les savoirs. Dès l'année de son élection en 2013, François s'était adressé aux théologiens et théologiennes, et il avait noté que cette manière de sentire cum ecclesia, de sentir avec l'Église, eh bien c'était la voie par laquelle le travail théologique permettait aux théologiens et théologiennes d'exercer le sensus fidei. Donc la synodalisation de l'Église et celle de la théologie relève de la même dynamique enracinée dans le sensus fidei. Je conclus. Si le travail théologique a de l'importance dans ce mouvement de synodalisation, eh bien c'est parce que la synodalisation de l'Église catholique constitue une nouvelle étape de la réception du Concile Vatican II. On pourrait même parler du pontificat de François comme d'une relance de la créativité dans la réception de ce concile. Souvenons-nous qu'à Vatican II, la théologie de l'Église était corrélée à la place que l'Église tient en ce monde. Autrement dit, le concile ne définit pas l'Église comme un « en soi » en la coupant de sa mission dans ce monde, bien au contraire. Il me semble que François est héritier de cette conviction, mais aussi qu'il en a relancé l'actualité. L'Église n'est pas un « en soi », sa synodalisation correspond à sa mission dans un monde radicalement pluriel, mais aussi un monde confronté à la menace d'une violence toujours plus grande et vivant à l'ombre d'une catastrophe écologique. C'est pourquoi François a lancé l'Église catholique dans un apprentissage ouvert. C'est un apprentissage pour tout le peuple de Dieu, c'est un apprentissage pour les théologiens, c'est un apprentissage pour les pasteurs et un apprentissage par la pratique. Merci beaucoup.
Merci beaucoup François Audinet d'avoir donné toute son ampleur à cette synodalisation en cours. Avant de passer au débat, j'aimerais présenter notre dernière intervenante qui nous proposera la relecture conclusive écuménique. Donc Anne-Cathy Graber, tu es pasteur et théologienne d'une église protestante consacrée dans la communauté du Chemin Neuf. Ici, aux facultés Loyola, tu enseignes la théologie dogmatique et tu es co-titulaire de la chaire de théologie écuménique. Et puis, tu es très impliquée à différents titres dans les instances et le dialogue écuménique. Et au dernier synode, en octobre dernier, tu y as également participé, mais cette fois comme déléguée fraternelle. Voilà, alors peut-être avant de donner la parole à la salle, j'aimerais faire réagir les différents intervenants et peut-être toi d'abord sur les interventions des uns ou des autres.
Merci. Alors, je retiens dans des interventions des uns et des autres peut-être trois mots, et trois mots qui rejoignent aussi cette expérience justement du synode, en tout cas de la dernière session du synode. Alors, le premier mot que Geneviève Comeau a bien développé, c'est l'interdépendance. L'interdépendance. Ensuite, Grégoire Cata a parlé d'une vigueur nouvelle pour la culture de la rencontre. Et enfin, François Audinet a parlé de rêver d'une église où tous ont leur voix. Bien, je peux dire que ça, c'est quelque chose qui a été vraiment mis en œuvre par le pape François, et notamment lors de la dernière session du synode. Donc cette interdépendance, cette culture de la rencontre, et une église où tous ont leur voix. Et je précise d'emblée que c'est pas seulement une voix à l'intérieur de l'Église catholique. Parce qu'en fait, le pape François a vraiment favorisé les choses pour que des voix soient aussi entendues qui viennent de l'extérieur de l'Église catholique. Donc ça me paraît très typique du pape François. Et ça n'est pas rien, parce qu'il s'agissait de parler d'une question de gouvernance quand même aussi, à travers la synodalité. Donc c'est quelque chose que je garde vraiment de la part de ce que le pape François a mis en œuvre dans une manière de faire, de penser l'Église, penser avec les autres. L'Église catholique pense aussi avec les autres églises, et ça a été manifesté concrètement. Et je souligne aussi un point dont tu as parlé et qui me paraît alors pour le coup absent chez nous, trop absent chez nous, notamment les églises protestantes. Lorsque tu as parlé de la voix des pauvres dans un synode, eh bien c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que nous sommes habitués à voir, comme si précisément nous ne leur donnions pas vraiment la parole à ce niveau-là, dans d'autres lieux bien sûr, mais pas pour penser l'Église. Et ça me paraît aussi une interpellation œcuménique que nous avons à recevoir.
Merci. Je ne sais pas si l'une ou l'autre ou l'un et, ou l'autre d'entre vous souhaite intervenir. Geneviève ?
On oublie toujours un détail. Merci François d'avoir appelé le mot rêve, qui apparaît, je crois, beaucoup dans le texte sur l'Amazonie. Et tu as dit le rêve, ça fait appel à l'imagination, et c'est très important. Le rêve, c'est pas un truc qui plane, bien gentil. Tu disais, c'est de l'ordre de la contestation. Et je pense que c'est quelque chose qui a été très important tout au long de ces années de pontificat. Je crois que François a été un homme de combat, qui a vécu lui-même des combats intérieur sans doute, et puis qui s'est livré vraiment à des combats, des contestations de ce qui semble aller de soi, avoir toujours été fait, pour nous entraîner dans des rêves féconds.
Merci. Grégoire, François, je sais pas.
Non, ce qui me frappe dans nos interventions qu'on n'avait pas c'était pas parlé avant, mais ce qui émerge, une des dimensions qui émerge, et ce que j'ai illustré au début de mon intervention, c'est vraiment comment cette attention à dire il y a une dimension sociale à l'évangélisation, bah en fait, elle apparaît, elle est comme connaturelle, quoi, de toute la manière dont le pape François a travaillé et a essayé de nous transmettre quelque chose du message de l'évangile. Et donc on le voit dans les différentes interventions, à quel point les encycliques sociales ont joué un rôle. Certains aspects qui étaient dans l'enseignement plus social, ben, après, réapparaissent dans les autres thématiques. Et je dirais, on pourrait faire la chose inverse, c'est que dans ces encycliques plus sociales, que ce soit Fratelli Tutti ou Laudato Si, la dimension et les impulsions qui sont données, les pistes qui sont ouvertes pour dire, mais ce que je dis là, c'est aussi fondé et ça a de l'impact dans les autres domaines de la théologie. Dans Laudato Si, on parle de la Trinité, on parle de la théologie sacramentaire, on parle plein de choses, à chaque fois avec des toutes petites pistes qui donnent plein de travail aux théologiens après pour les développer, parce que les choses ne sont pas développées. Mais ça montre bien que peut-être qu'avec le pape François, en tout cas pour nous les théologiens, on sort de cette segmentation, vous savez, de la théologie en... Il y a le domaine, et puis en plus, nous, dans la morale, en plus, on sépare en deux domaines, la morale sociale et la morale sexuelle familiale. Tout ça explose complètement parce que c'est le fruit du dialogue et de l'interaction qui reflète beaucoup mieux et qui fait émerger bien mieux le message de l'évangile et qui fait émerger bien mieux la révélation de Dieu. Donc, Voilà, ça c'est un grand enseignement quand même du pape François.
Merci. François ?
Je suis frappé par la capacité du pape François à avoir commencé des choses, à avoir initié, ce qui suppose une certaine audace, mais du coup on ne sait pas forcément où ça conduit. Ça c'est inhabituel chez les papes. Et c'est en ce sens que j'ai entendu... Je crois que c'est inhabituel comme manière de procéder quand on assume le ministère de pape. Je crois que l'histoire récente le montre. Et du coup, cette originalité de style que Geneviève a vraiment déployée me semble s'inscrire aussi dans cela. Et j'ai été frappé aussi par la manière dont Grégoire a mis en lien des textes et des gestes. Enfin, c'est aussi une manière de faire commencer des choses. Pas seulement de parler... mais de vivre un événement commun.
Merci François. Je propose d'ouvrir le débat plus largement à la salle, mais aussi à ceux qui sont présents via YouTube. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Et quant à la salle, un micro va circuler. Je propose de prendre par groupe de deux questions.
J'en ai deux.
Très bien, ça tombe bien.
Bon, je reviens sur la dernière intervention de François Audinet sur la synodalité. Alors, ne débattons pas, mais tu l'as pas employé. Ça n'est pas de la démocratie, mais enfin, c'est quand même de la démocratie. Bon, fermons la parenthèse. La synodalité, je suis un peu inquiet de l'avenir qu'aura ce synode si je vois ce qui se passe. Dans mon diocèse, dans ma paroisse, on a fait un synode. D'ailleurs, dans mon diocèse, ça succédait à un autre synode diocésain. On a dit à peu près la même chose. Et puis après, on a dit, ah ben, c'est fini le synode, maintenant c'est le jubilé. Alors, on a dit aux paroisses, c'est le jubilé. Et puis voilà, une autre tranche, quoi. Comme si on étudiait les pages d'histoire. Alors, la synodalité, je vois que le cléricalisme, ça existe, mais en fait, le corporatisme, ça existe dans toutes les professions. Hein. Mais en plus, là, il y a le côté sacré, c'est un peu plus méchant. Deuxièmement, il y a la difficulté de trouver des chrétiens engagés. Hein. Je vois des gens qui suivent, des gens qui travaillent d'ailleurs, qui font des choses. Mais ça manque de niaque. Alors par rapport à ma jeunesse, mais on a toujours envie, si j'étais cardinal, je pourrais encore voter quelques mois. On a toujours envie de dire c'était mieux avant, hein, le concile, nous, ça nous a agité totalement, en même temps que mai 68. Mais on voit des difficultés pour les chrétiens de s'engager. Par exemple, je suis dans un diocèse, depuis 8 ans, il n'y a pas de conseil pastoral des laïcs. Hein, on l'a dit plusieurs fois, on va le créer, on ne le crée pas. A-t-on peur de demander l'avis aux gens? Hein, je veux bien croire avec le pape que la réalité c'est plus fort que les idées. Il faut quand même un peu avoir un peu d'idées. En tout cas, merci pour vos trois interventions qui nous montrent la cohérence de la pensée de ce pape. Alors demain, celui qui va être élu, quel boulot, hein, parce qu'on va le comparer dans le style, etc., etc. Bon, prions pour lui. Envoyez encore pendant une semaine des textos à vos cardinaux. Voilà. Mais la synodalité, comment faire demain pour vivre en synodalité dans nos paroisses?
D'accord.
Excusez-moi d'avoir été long.
Merci beaucoup. Donc François, sans doute d'abord pour la première question, et peut-être la deuxième aussi.
Qu'est-ce que ce synode va devenir? Évidemment, c'est la question. Qu'est-ce que la synodalité va devenir? C'est la question. Il y a une dimension d'apprentissage. Et il y a quelque chose qui a commencé dont précisément on ne sait pas où on va. Il me semble que il y a une dimension de changement culturel. Ça me semblait préférable. C'est-à-dire, je pense que ce qui va rester du pontificat de François, plus que tel ou tel choix de gouvernance, c'est plutôt de l'ordre des changements culturels. Et du coup, une forme de culture de l'écoute, une forme de choix de confiance dans le travail que l'Évangile fait dans chaque culture. Ça, à mon avis, c'est des choses qui vont durer assez longuement. l'accent mis sur le sensus fidei aussi. Je pense que là, il y a quelque chose qui va porter du fruit. Mais nous sommes presque 1,5 milliard. Nos cultures précisément sont différentes et donc nos apprentissages prennent vraiment du temps. Une chose que le synode m'a fait comprendre, c'est à quel point pour le pape il était urgent de ne perdre personne en route, y compris les personnes pour qui la synodalité provoquait vraiment de la peur. Voilà.
Est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter? Non. Merci. D'autres questions?
Ça va? Ah oui. Bonjour. Moi, je suis argentine. Je connaissais le pape parce qu'il habitait à côté de l'arrondissement où j'habitais en Argentine, à Buenos Aires. Excusez-moi, je suis trop touchée, c'est pas ça, je suis un peu étonnée de moi-même, mais ça m'arrive. Je ne peux pas arrêter de pleurer dès que je suis de son départ. C'était quelqu'un d'une spontanéité, d'une simplicité.
Oui, bien dans le micro. Aussi.
C'est quelqu'un d'une simplicité, d'une spontanéité. Il habitait dans un petit appartement là-bas. Très petite, il nous a appris quelque chose de très valable pour nous, que jamais il faut aller se coucher sans faire la paix avec notre cœur. Jamais il faut se coucher avec la colère ou avec le ressentiment, avec la personne qu'on est à côté. Il faut faire la paix avant. Et la dernière chose que je voulais remarquer sur lui, c'est la simplicité. On lui demandait combien de temps j'ai pour pouvoir parler avec vous. Pas moi, hein. En tout cas les gens qui partaient pour le voir. Il disait tout le temps que vous voulez, tout le temps. Vous avez tout le temps. Et c'est quelqu'un que les gens étaient très touchés parce qu'ils disaient c'est le pape. Ne me dis pas le pape, dis-moi François, Francisco. Et c'est comme ça, il tutoyait les gens. Il était quelqu'un au même niveau. Il nettoyait ses habits. C'est quelque chose que nous connaissons bien là-bas. Et je voulais vous remercier infiniment pour cet hommage parce que je suis fière. Je suis fière d'avoir connu et d'avoir écouté toutes ces choses, ces belles choses qui sont tout à fait vraies de notre pape, des papes du monde entier. Merci.
Merci beaucoup de ce témoignage vivant. D'autres questions? À distance, il n'y a pas pour l'instant.
Merci pour votre intervention. Comme j'ai écouté la homélie des cardinals, j'ai oublié son nom, mais c'est pas important. C'était une belle homélie. Mais deux choses, je pense, il a manqué. C'est peut-être le premier aspect, il n'a pas utilisé le mot synodalité. Ou il a dit ensemble, on travaille ensemble. Mais vous savez parler de synodalité, merci. Mais le deuxième aspect, l'amoris laetitia. Et je ne sais pas pourquoi. On n'a pas parlé beaucoup de Amoris Laetitia, ou on n'a pas oublié ce poids. Oui, je sais que Grégoire, tu as cité une fois.
Tu peux peut-être répondre, Grégoire.
Oui, bien sûr. Enfin, on peut pas parler de tout, et de fait, pour évoquer l'homélie, moi telle que je l'ai entendue, de fait, il y a un choix qui a été fait, et c'est vrai que. Il a beaucoup insisté, le cardinal Rey, fait écho beaucoup des aspects du pontificat du pape François dans sa relation, je dirais, à l'Église ad extra, quoi. Et finalement, il n'a pas évoqué toutes les choses que nous on a aussi évoquées ce soir de l'Église ad intra. Voilà, c'est un choix qu'il a fait, peut-être aussi parce que il faisait face à peu près la moitié de tous les présidents de la terre et des têtes couronnées, donc il y avait ce symbole-là. Pour parler de, évidemment, Amoris Laetitia, enfin voilà, c'est un des grands aussi quelque chose qui a marqué quand même le pontificat, ce synode sur la famille. Moi, ce que je retiendrai encore une fois, c'est aussi quelque chose en termes de méthodologie, de manière de faire, de capacité d'ouvrir, quoi. Il y a eu la manière dont ce synode a commencé sur le thème de la famille, dont on sait que ça suscite toujours quand même dans l'Église des visions différentes, des tensions. Il y a eu tout un processus de consultation, de large, de faire discuter. On s'est dit, tiens, d'un synode, il va y en avoir deux, un synode extraordinaire, un autre. Ça, c'est la manière de faire du pape François, quoi. Et donc, ça a suscité quelque chose. Et puis l'autre chose, le grand mot, quand même, je pense, d'Amoris Laetitia, un des grands mots d'Amoris Laetitia, c'est le discernement. Le discernement. Et le grand défi pour mettre en œuvre Amoris Laetitia, c'est de comprendre à quoi le Seigneur nous appelle dans la pratique du discernement. Qu'est-ce que ça veut dire, le discernement? Voilà. Et plus on avancera là-dessus, plus on pourra mettre en œuvre Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, comme vous le savez tous, n'a pas bouleversé un certain nombre d'enseignements, on pourrait dire de doctrines fondamentales. Mais Amoris Laetitia a transformé la manière, en allant beaucoup plus loin que ce que Jean-Paul II avait dit de son temps, pour aller beaucoup plus loin dans cette manière de mettre en œuvre, d'appliquer, de comprendre, voilà, et d'articuler comment on met en œuvre la miséricorde de Dieu, quoi. Voilà. Tout en maintenant notre compréhension de ce que c'est que la vie en famille, ce que c'est que le mariage, ce que c'est que le couple. Donc certainement, voilà, ça c'est quelque chose qui aura marqué le pontificat du pape François, mais qui a encore besoin de temps pour se déployer, quoi, et être mis en œuvre.
On a, merci, une question en ligne qui rappelle l'importance de ne perdre personne en route et qui demande tout simplement « quid des femmes ?» Voilà, en développant un peu plus, mais c'est la question. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui souhaite réagir à cette question-là? Voilà, c'est pas forcément facile dans l'institution ecclésiale.
Un homme répond. Je vais faire une observation et émettre une hypothèse. L'observation, c'est que au synode qui vient de s'achever, la question homme-femme, qui a provoqué des débats difficiles, on le sait parce que les interventions du cardinal Fernandez ont été publiées, donc c'est public. Ces questions ont trouvé une porte de sortie permettant aux membres de l'Assemblée d'assumer cette dimension-là en resituant le baptême. L'importance du baptême, sa primauté par rapport à tout ministère, et en rappelant que homme ou femme baptisé, le baptême évidemment étant de la même dignité, les baptisés sont appelés à la même participation, à la même, etc. Et paradoxalement, c'est cette réhabilitation du baptême, c'est dans ce contexte de réhabilitation du baptême ou de rappel de l'importance du baptême que le synode peut dire que la question de l'ordination diaconale de femme est toujours à discerner. Donc, c'est par ce biais du baptême commun qu'une question ministérielle, par exemple, est resituée. Maintenant, l'hypothèse, peut-être impopulaire ce soir, je ne sais pas, mais je ne suis pas certain que ce soit le point sur lequel le pape François ait été le plus novateur. Quand il parlait, ses références théologiques étaient souvent celles d'un Balthazar, d'une église féminine, d'un principe marial, qui était cohérente avec Mulieris Dignitatem, par exemple, un document de Jean-Paul II, mais dont on ne peut pas dire ni qu'elle fasse l'unanimité dans le monde théologique, et là je le dis de la manière la plus douce possible, ni qu'elles aient une crédibilité pour réfléchir aux questions notamment de ministère ou de gouvernance. On sait que le pape a reçu d'autres apports théologiques parce qu'il a chargé une théologienne italienne de le faire, et qu'elle a eu l'autorisation de publier ce qu'elle avait apporté au pape et au conseil des cardinaux. Donc on sait qu'il a reçu d'autres apports théologiques. Malgré tout, il est resté fidèle plutôt à cette ligne théologique. Donc je pense honnête de dire que cette question homme-femme n'est pas celle sur laquelle le pape François aurait été le plus novateur.
Peut-être juste une dernière... Ah non, tu veux réagir? Vas-y, Geneviève.
Oui, je pense que de fait... Il n'a pas vraiment poussé la question du diaconat féminin. Il y a eu une commission, puis une autre qui ont été créées. Ça a pataugé. Il n'a pas franchement encouragé. Oui, c'était peut-être pas la question principale pour lui. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, François, son souci aussi, c'était de ne perdre personne. Cela dit, quand il a voulu nommer des femmes à des postes importants dans les structures de la curie, il l'a fait au titre de leurs compétences. Voilà, donc, je pense que c'était un pas passé assez imprévisible, qui avançait pas à pas et qui ne nous a pas dit ce qu'il en sera des relations hommes-femmes pour la suite. Ça, c'est sûr, tout est à continuer à inventer.
Il y a une dernière question, on ne va pas avoir le temps de l'honorer malheureusement, sauf si tu peux y répondre en quelques instants puisqu'elle concerne Grégoire Cata, sur le fait qu'il y a la dimension sociale qui est au cœur de toutes les dimensions théologiques, mais est-ce qu'on peut éviter de réduire ça à un moment ou à un autre à une idéologie? Mais c'est en quelques mots, c'est peut-être un peu rapide.
Je pense que précisément le pape François, je pense, nous a bien montré cela. Encore une fois, quand ce qui vient irriguer tout, c'est la méditation de la parabole du bon samaritain, à mon avis, on sort complètement de l'idéologie, quoi. On sort de l'idéologie parce que c'est pas un slogan, c'est la contemplation d'une, d'ailleurs c'est ce qui nous invite dans Fratelli Tutti, la contemplation d'une histoire avec ses tenants, ses aboutissants, les différents personnages, l'idée de dire, ben, on est tous à la fois, il faudrait qu'on soit tous comme le bon samaritain, mais en fait, il y a tous un peu en nous des brigands, de ceux qui passent sans tourner la tête, du blessé et aussi du bon samaritain. Voilà. Voilà le type de choses qui peuvent nous aider à sortir de l'idéologie. Et je pense que s'il y a vraiment un pape qui se battait et qui refusait toute forme d'idéologie, c'était bien le pape François. Quand il nous dit que la réalité est supérieure à l'idée, c'est bien par rapport à ça.
Je vais donner la parole maintenant à Anne-Cathy Graber pour la relecture conclusive ou ouverture, les chantiers écuméniques du pontificat.
Merci, bonsoir. Alors, je partirai de trois signes qui se sont manifestés pendant les funérailles du pape François. Le premier, voir le patriarche de Constantinople Bartholomée, ce frère orthodoxe avec lequel le pape François rêvait de commémorer Nicée le mois prochain, voir ce patriarche donc assis au premier rang, ce qui n'était pas arrivé encore pour quelqu'un de non catholique, à cet endroit. Deuxième signe, voir ou constater que les funérailles du pape François ont été retransmises sur la chaîne officielle de l'église copte orthodoxe à la demande de son patriarche Tawadros II. Or, c'était la première fois que la télévision du patriarcat retransmettait une célébration catholique. Enfin, le troisième signe sur lequel je m'arrête, c'est de voir une centaine de représentants d'autres églises présents officiellement. Alors, il y avait toujours eu, évidemment, des représentants d'église lors de funérailles de pape, mais là, il y en avait plus d'une centaine. Et il ne s'agissait pas seulement des grandes églises luthériennes, réformées, anglicanes, mais les pentecôtistes étaient très présents, les réformés, les évangéliques, pardon, et d'autres églises très minoritaires. Alors, ces trois faits confirment qu'il s'est passé quelque chose pendant ce pontificat. Il s'est passé quelque chose alors qu'il n'y a pas eu d'encyclique sur l'œcuménisme, comme par exemple avec Jean-Paul II. Il y a eu un œcuménisme très incarné par des gestes et des rencontres, et c'est de cela dont je vais parler à présent. Il n'y a pas eu d'encyclique, certes, mais dans l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », le pape, d'une certaine manière, nous présente son programme œcuménique. Alors, il emploie l'image bien connue maintenant des pèlerins qui cheminent ensemble. Mais il y a une phrase que l'on a moins entendue et qui suit celle-ci. Il dit que pour faire un pèlerinage, il faut confier son cœur aux compagnons de route sans méfiance. Sans méfiance et viser ensemble avant tout ce que nous cherchons, la paix. Et la suite, se confier à l'autre, donc aussi à l'autre Église, c'est de cela dont il parlait, est quelque chose d'artisanal. La paix est artisanale, dit-il. Et donc ce que je vous propose ce soir, c'est de faire quelque chose d'artisanal. Je vais tout simplement vous rappeler, nous rappeler, certains gestes posés par le pape François. Mais avant, je poursuis, toujours avec la joie de l'Évangile, où il définit aussi ce que c'est que l'œcuménisme pour lui. Voilà ce qu'il en dit. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des informations sur les autres, afin de mieux les connaître, mais de recueillir ce que l'Esprit a semé en eux comme don aussi pour nous. À travers un échange de dons, l'Esprit peut conduire toujours plus à la vérité et au bien. C'est d'échange de dons dont il va être question à présent, de chemin et d'artisanat. Alors sur ce chemin de l'unité, le pèlerinage du pape François s'est tracé, selon moi, avec deux mots, gratitude et pardon. Gratitude pour l'Église de l'autre et pardon vis-à-vis de l'Église autre. Je rappellerai un événement en Suède en 2016 pour la commémoration des 500 ans de la Réforme. En effet, le pape François a commencé par exprimer sa gratitude. Il a su reconnaître les merveilles de Dieu dans la tradition des autres églises. Le pape François a commencé par exprimer sa gratitude pour la contribution de la Réforme dans l'histoire de l'Église. Ce qui n'est pas fréquent, parce que d'habitude, on dit quand même que la Réforme a été une blessure, ce qui est vrai aussi, dans l'histoire de l'Église. Gratitude pour l'expérience spirituelle de Martin Luther, qui nous rappelle, dit-il, que la seule réponse est dans le Dieu miséricordieux. Mais aussi demande de pardon, car il y a eu des blessures sur ce chemin de pèlerinage. Voici la manière dont le pape François demande pardon. Nous nous sommes enfermés en nous-mêmes, donc il demande pardon aux luthériens, nous nous sommes enfermés en nous-mêmes par peur ou à cause d'un regard biaisé sur la foi que les autres professaient, avec un accent ou un langage différent. Et le pape François, dans sa démarche œcuménique, c'était cela, être prêt à accepter que le langage de l'autre Église, accepter que ses accents soient autres. Il n'avait pas peur de la diversité des langages des Églises. Il était même prêt à apprendre le langage de l'autre. Si j'ai le temps, je pourrais éventuellement vous donner encore un autre exemple artisanal. À propos de la diversité des langages, voici ce qu'il dit, et c'est très en lien avec l'Esprit Saint pour lui, très en lien avec le travail de l'Esprit et la confiance dans l'Esprit. L'Esprit Saint crée la diversité dans l'Église, dit-il dès 2014. Mais ensuite, cet Esprit Saint crée l'unité. C'est ainsi que l'Église est une dans la diversité. Et il dit, j'aime reprendre ce mot, cette expression magnifique d'un luthérien que j'aime beaucoup. Alors, il s'agit de Hardingmeyer. C'est une diversité réconciliée. Le pape utilisant un langage typique d'une tradition autre pour dire ce qu'il croit de l'articulation entre unité et diversité. Une diversité qui n'est pas une juxtaposition d'églises où tout se vaudrait. Une diversité qui doit se laisser travailler, convertir, pour être réconciliée. Toujours à propos des diversités et des différences auxquelles il accordait une grande place, voilà ce qu'il dit, et cela a permis un grand travail au niveau œcuménique, rencontre œcuménique. Il est nécessaire, dit-il, de reconnaître que les différences sont créatrices. Et soyons persuadés, ajoute-t-il, que les différences sont créatrices, elles créent des tensions, et dans la résolution d'une tension se trouve le progrès de l'humanité. Trouve le progrès de l'humanité et on peut le dire aussi des églises. Alors je vais faire maintenant un aparté, toujours à propos de Lund, puisqu'il a été question des femmes, je ne sais pas si j'allais en parler ce soir. Il se trouve que pendant cette célébration entre luthériens et catholiques, les luthériens étaient très étonnés que le pape ait accepté l'invitation, il y avait quand même une difficulté majeure, diplomatique dirons-nous, c'est que l'archevêque qui était l'archevêque luthérien à la tête de l'église luthérienne de Suède, n'était non pas un archevêque luthérien, mais une archevêque luthérienne, Antje Jäkelen. Et donc c'était un problème pour les services romains qui préparaient la visite, bien sûr. Mais c'est dommage, il faudrait voir les photos, mais vous pouvez les trouver très facilement sur Internet. Il y a une très grande simplicité de la part du pape, et on sent une reconnaissance, évidemment, de la place de cette femme, lorsqu'il se laisse accueillir par elle, au pied de l'avion, aussi pendant la célébration. Une accolade qui n'a rien de diplomatique. Et on en veut pour preuve aussi qu'il l'a reçue en audience officielle à Rome, en respectant son rang d'archevêque. Alors certes, c'était pour une autre église. La paix est artisanale, disait-il, et je reprends son expression. Il se trouve que c'est le premier pape qui, juste après son élection, il a été le premier donc à se rendre dans une église pentecôtiste à Caserte en Italie. Il est vrai qu'il en connaissait bien le pasteur, Giovanni Trentino, qu'il avait rencontré en Argentine. Mais ça a été une de ses premières visites. Aucun pape n'était allé visiter ainsi les pentecôtistes. Et là, après un discours assez long, il a demandé pardon aux pentecôtistes pour des persécutions qui avaient eu lieu en Italie vis-à-vis d'eux, mais aussi pour le mépris très souvent manifesté vis-à-vis d'eux par les grandes églises institutionnelles. L'œcuménisme est aussi créateur liturgiquement. Ça peut sembler plus délicat, et pourtant, le pape François a réussi cela aussi. Je pense à la fête de la création du 1er septembre. En effet, le pape François, après Laudato Si en 2015, a institué dans l'Église catholique une journée de prière pour le soin de la création. Or, du côté orthodoxe, le patriarcat de Constantinople célèbre une telle fête depuis 1989, chaque 1er septembre. Eh bien, le pape François s'est explicitement inscrit dans ce que vivait déjà le patriarcat œcuménique de Constantinople. Et d'ailleurs, que ce soit le patriarche Bartholomée ou le pape François, ils ont décidé tous deux un message commun, de rédiger un message commun pour cette fête. Toujours liturgiquement, pourrait-on dire, ces marques de reconnaissance de l'autre dans ce que le pape François appelle l'œcuménisme du sang. Il y a une décision du pape François qui a été celle de reconnaître des saints d'une confession chrétienne autre que catholique, notamment des martyrs, tels que les 21 martyrs, dont 20 coptes orthodoxes, assassinés par Daesh. Ils sont aujourd'hui inscrits sur leur martyrologe romain, donc depuis 2023. Et si vous lisez le texte pour une église synodale, vous verrez qu'il est souhaité un martyrologe œcuménique. Alors à cela s'ajoute la proclamation d'un docteur de l'église qui n'est pas catholique, qui est de l'église apostolique arménienne, donc orthodoxe. Et ça n'a pas été fait à n'importe quel moment, parce que pour le pape François, œcuménisme et travail pour la paix, et aussi pour la réconciliation de la mémoire, sont étroitement liés. Il a déclaré, ce docteur, au moment du centième anniversaire du génocide arménien. Donc Saint Grégoire de Narek, apostolique arménien, déclaré docteur, non seulement de l'Église orthodoxe, mais catholique. Un pape, donc, qui savait parler le langage de l'autre. Alors, pour conclure, bien sûr, il y aurait eu tellement d'autres événements, tellement d'autres gestes à honorer. Mais pour conclure, l'œcuménisme pour François n'est pas une option de la vie évangélique. Il est intimement lié au travail de la paix et de la justice. On peut dire que le pape l'a montré aussi dans son compagnonnage avec l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et leur recherche commune de la paix au Soudan. C'est dit-on, à la suggestion de celui-ci, Justin Welby, que le pape avait invité les responsables des différentes factions en guerre du Soudan du Sud à une retraite spirituelle au Vatican. Et c'est à l'issue de celle-ci, dans un geste inédit, qu'il a embrassé les pieds des responsables politiques pour les implorer de faire la paix. Donc l'œcuménisme n'est pas une option de la vie évangélique. La paix est artisanale, l'œcuménisme est artisanal, ce qui signifie qu'il s'agira toujours d'abord de rencontres de personnes et que c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Je crois que ce sera le dernier événement dont je rendrai compte, à la portée de tous, parce que déjà lorsqu'il était archevêque en Argentine, il y a eu une grande amitié entre lui et Marcello Figueroa, un presbytérien, qui était à la tête de la Société biblique argentine. Et ils ont décidé tous deux de co-animer, avec le rabbin Abraham Skorka, une émission télévisée hebdomadaire sur la Bible. Et probablement, c'est aussi ancré dans ce travail de 4 années qu'il est écrit toujours dans la joie de l'Évangile. Le dialogue et l'amitié avec les fils d'Israël font partie de la vie des disciples de Jésus. Un pape, donc, qui n'avait pas peur d'aller prier avec les autres églises, d'aller les rencontrer, mais un pape aussi qui a eu l'audace de gestes inédits, originaux, courageux. Je vous ai parlé de son ami presbytérien, argentin. Eh bien, il a eu le courage de le nommer, et c'était le premier protestant à ce poste, il n'y en a pas eu d'autres depuis, il a eu le courage de le nommer responsable de l'édition de l'Osservato Romano en Argentine, en 2017. Je termine en disant que le pape François nous donne de croire à une Église une dès maintenant. Une Église qui est déjà une, en communion, même imparfaite, ici et maintenant. Une Église qui a besoin des autres pour réfléchir. Je pense à ce synode sur la synodalité. Une Église qui ne peut pas être autosuffisante parce qu'elle est l'Église du Christ. Et j'avais commencé par une image lors des funérailles, au même endroit, pour ouvrir le synode sur la synodalité pour la première session. Il y avait eu une célébration appelée « Together » où il y avait les 19 responsables d'église avec le pape. Le pape était un parmi d'autres. Alors bien sûr, quand on est pape, on n'est jamais tout à fait un parmi d'autres. Il était cependant un parmi d'autres et les 19 ont donné une bénédiction pour l'Assemblée avant l'ouverture de ce synode. Et cette image, je crois, dit bien cette Église une, en communion, ici et maintenant, et une Église qui a besoin des uns des autres.
Merci beaucoup, Anne-Cathy, de cette promenade réjouissance dans l'écuménisme artisanal du pape François. Notre soirée touche à sa fin. Quelques informations conclusives. Déjà, le replay de cette soirée sera disponible demain ou vendredi sur le site des facultés Loyola. Vous recevrez le lien si vous êtes inscrit à cette soirée. Vous recevrez également à la sortie le petit livret mentionné par Alain Thomasset lors de l'ouverture de cette soirée sur les grands thèmes théologiques du pontificat. Et puis, également à la sortie, vous aurez un stand librairie avec 2 livres des éditions jésuites, les éditions des facultés Loyola Paris, sur d'une part les grands chantiers du pape François, et d'autre part, hommes et femmes en église du nouveau. Pour faire suite, ah, il n'y avait pas le point d'interrogation? Ah, pour moi, il y a du, ah. Il y a un problème d'exégèse, visiblement. Mais, pour faire suite à cette soirée, il y aura également un prochain mardi d'éthique publique, le mardi 13 mai à 19h15, sur le thème « Après François, les défis du nouveau pape ». Là aussi, point d'interrogation. Et puis, si cette soirée vous a plu, n'hésitez pas à faire un don. Vous trouverez des urnes prévues à cet effet à la sortie ou sur le site des facultés Loyola Paris, en ligne, nous soutenir. Merci beaucoup encore à chacun et chacune de nos intervenants.